Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale que nous vous proposons. Vous allez pouvoir entendre les 5 sujets sélectionnés par chacun des médias francophones publics pour les représenter à leur Grand Prix du reportage. Ce soir à 19h, Radio France Internationale, la radio-télévision suisse, la radio-télévision belge francophone, Radio-Canada et Radio France dévoileront le nom du lauréat. Pour Radio France, c'est un reportage de Solène Lehen, devenir fier d'être français, déjà lauréat du Grand Prix du reportage de Radio France, qui a été sélectionné. Radio-Canada sera représenté par Yannick Dumont-Baron, auteur d'un reportage sur la crise des opiacés en Virginie-Occidentale. Pour la RTS, vous allez entendre « Eh mademoiselle, pourquoi tu réponds pas ?» reportage de Francesca Argirofo et Yves Zano. La RTBF a sélectionné les attentats de Bruxelles, les victimes, un an après, de Fabrice Gérard. Et RFI nous entraînera au Congo avec un reportage de Florence Maurice, Congo-Brazzaville, le poule, une crise humanitaire oubliée.
Interception, le magazine de la rédaction.
Première étape aux États-Unis, où les opioïdes en vente libre tuent 175 personnes chaque jour. Le Missouri est devenu le troisième État américain à intenter une poursuite contre des compagnies liées à la crise des opiacés. Plusieurs villes et comtés ont intenté des recours légaux contre les fabricants de médicaments antidouleurs. Ces démarches légales illustrent l'ampleur de la crise qui a tué plus de 52 000 Américains en 2016, ce qui représente plus de victimes que n'en font les armes à feu et les accidents de la route combinés. Yannick Dumont-Baron, le correspondant de Radio-Canada aux États-Unis, s'est rendu dans l'une des régions du pays les plus touchées par cette épidémie, les Appalaches de Virginie-Occidentale.
Markham Terrace, peut-être le pire coin d'Huntington, une petite ville pas très riche de Virginie-Occidentale. Autour de nous, un dépanneur où flânent des gens maigres, des logements subventionnés, un peu délabrés. Il y a aussi beaucoup de drogue.
They're selling illegal narcotics.
Frustré, ce jeune père de famille parle de l'héroïne que l'on ne vend même plus en cachette. Sidéré, il décrit les automobilistes qui font la file chaque soir pour s'en procurer.
Waiting to get served next, like a fucking McDonald's.
Un peu comme le service au volant de chez McDonald's. Lui, il ramasse les seringues souillées et compte les ambulances. Un jour, les secouristes pourraient bien venir pour celui que l'on surnomme Mr. Low. Il n'a plus qu'une seule jambe. Pour fonctionner, il s'appuie donc sur des béquilles et sur l'héroïne.
You know, it's hard to get treatment, you know, when you want to be...
Mr. Low explique que c'est difficile d'avoir de l'aide et que c'est encore plus difficile de se débarrasser d'une telle dépendance. Huntington est marqué par ce qui s'est passé par un chaud après-midi l'été dernier. Les secouristes sont venus à Markham Terrace pour ranimer 26 personnes en quelques heures. Des gens qui avaient consommé de l'héroïne mélangée à du fentanyl, un produit beaucoup plus puissant. Et aussi beaucoup plus dangereux. C'est ce qui a fait monter en flèche le nombre de surdoses dans la ville, au point où les pompiers réaniment maintenant plus de toxicomanes qu'ils n'éteignent de feu. Au point aussi où le chef de l'escouade antidrogue de Huntington s'inquiète pour les policiers qui manipulent cette héroïne de plus en plus puissante. Le capitaine Rocky Johnson a décidé que ses agents devaient changer de tactique.
When that moment came for me is when we kept arresting the same people over and over and over again for the same crime over.
Moi, j'ai fini par réaliser qu'on arrêtait tout le temps les mêmes toxicomanes pour les mêmes crimes. On n'allait nulle part. La prison, c'est une punition. Mais on veut surtout qu'ils changent leur comportement. Et pour ça, on peut les envoyer en désintox plutôt qu'en prison. On peut les aider. Ceux qui vendent de la drogue, il n'y a rien à faire. C'est l'argent et l'avarice qui les motivent. Ceux-là, on veut les envoyer en prison.
En fait, toute la ville semble avoir changé d'attitude devant un problème si répandu qu'il est devenu impossible à ignorer.
64.
Isolée, débordée, Huntington tente tout ce qu'elle peut pour contenir l'épidémie. L'une des initiatives les plus remarquées est probablement ce programme d'échange de seringues souillées. Le concept n'est pas nouveau, mais son apparition dans les régions les plus conservatrices du pays témoigne de la sévérité du problème. Ce midi, deux jeunes femmes sont venues chercher des dizaines de seringues propres et des condoms. des façons de tenter de réduire les risques de flambée d'hépatite ou de VIH. Huntington est en tête de liste des zones où ces infections sont déjà les plus présentes et l'argent manque cruellement, déplore le responsable des services de santé dans la région, le Dr. Michael Kilkenny.
Our biggest obstacles are based on resources. We've had limited resources, so we've operated.
Nos plus grands obstacles sont liés aux ressources. On ne peut être en activité qu'une journée par semaine dans un seul endroit. C'est bien pour ceux qui peuvent venir, mais c'est un obstacle pour ceux qui ne peuvent venir ici. Il faudrait être à plus d'endroits, à des heures plus variées. Et c'est certain que les valeurs des élus jouent un rôle. Prendre l'argent venant du fédéral, ça ne peut pas être utilisé pour acheter des seringues.
Harm reduction programs, including syringe exchange, but it can't buy the syringes.
Ne vous laissez pas tromper par le ton calme du Dr. Kilkenny. Il cache bien sa frustration. Malgré l'urgence, il se désole de ne pouvoir rejoindre que le tiers des toxicomanes de la ville. Devant ce centre de désintox, l'urgence se vit au quotidien. Cet après-midi, un groupe de jeunes participants applaudit d'autres toxicomanes rentrés d'une activité au centre-ville. Ces applaudissements, c'est une façon de souligner qu'ils ont réussi à résister à la tentation bien présente un peu partout, celle de se procurer de la drogue. À l'intérieur, le jeune mentor, Austin Clayton, nous emmène dans une pièce sombre.
For the most part, people just kind of sweat it out and they stay strong.
Il y a quelques lits où on retrouve des hommes bien pâles, d'autres sont attablés, mais peu énergiques. L'ambiance est lourde. C'est ici qu'on purge son corps de l'héroïne. La pièce sert aussi de lieu de punition contre ceux qui n'ont pas suivi les règles strictes du programme.
It is harsh, but, you know, it kind of shows how willing you are to stay sober.
Oui, c'est sévère, reconnaît Austin Clayton, mais ça force les gens à prouver qu'ils veulent vraiment s'en sortir. Cet été, l'organisme Recovery Point pourra aider près de 350 personnes à la fois. Trop peu pour l'augmentation vertigineuse des demandes d'aide. L'une des responsables de l'organisme, Laura Lawson.
When I talk to them in person, it feels like they get it. And we talk to many of them in person, and they come visit our facilities.
Les politiciens à qui je parle, ceux qui viennent nous rencontrer, semblent comprendre l'ampleur du problème. Mais les politiques qu'ils mettent en œuvre ne reflètent pas cette compréhension. Une bonne partie de mon travail maintenant, c'est de défendre nos besoins. Nos clients dépendent de programmes d'assistance qui sont menacés. Malgré toutes les fois où les médias ont parlé de nous, nous n'avons reçu qu'un seul don de 20 $. On a vraiment l'impression que les gens ne pensent pas à nous.
L'épidémie semble frapper surtout les jeunes, dans les coins les moins nantis du pays, des zones qui ont massivement appuyé les républicains de Donald Trump. Ils sont au pouvoir, mais l'aide ne semble pas arriver. Le maire d'Huntington parlait justement du manque criant de ressources lorsqu'une autre ambulance l'a interrompu.
À 60 millions, we'll just look at this. Odds are they're going to overdose.
Une autre surdose, soupire Steve Williams en se demandant qui sera la victime cette fois. Il ne fait pas confiance aux politiciens de Washington pour l'aider, malgré l'urgence. Comme plusieurs autres, Huntington s'est donc tournée vers les tribunaux. Elle poursuit les compagnies pharmaceutiques pour récupérer une partie des dépenses en soins de santé liées à l'épidémie.
I could care less about damages that are coming our way.
La tactique ressemble aux longues poursuites contre les fabricants de cigarettes, mais ce n'est pas vraiment l'argent qui motive le maire Steve Williams. Il répète que les médicaments antidouleurs sont à la base de l'épidémie d'héroïne et que ces géants pharmaceutiques qui les ont fabriqués devraient aussi aider à trouver une solution.
This is a city under siege. But you hear the...
C'est une ville assiégée. Vous entendez les sirènes? Je reçois constamment des alertes. Je prie pour une journée sans surdose, pour une semaine sans mort. Nous sommes une nation assiégée.
We're a nation under siege right now. This is the HIV of the early 80s.
Cette crise, c'est comme celle du VIH au début des années 80. Si on ne la maîtrise pas, on va perdre des générations.
We lose generations.
Ce reportage a été diffusé le 21 juin. Yannick Dumont-Baron, vous en êtes l'auteur. Cette crise des opioïdes est en fait venue s'ajouter à tous les autres problèmes de drogue des États-Unis.
Oui, effectivement, on peut remonter à la fin des années 90, aux années 2000 aussi, et il y a deux problèmes qui se sont croisés, qui ont contribué à cette crise-là. Donc, évidemment, il y a une partie de ça qui vient de l'héroïne, donc cette drogue qui est arrivée du Mexique et qui était vraiment pas chère, donc les gens ont commencé à consommer ça, mais aussi les opiacés ou les opioïdes, donc des médicaments antidouleurs qui ont été prescrits de manière absolument libérale, un peu comme des bonbons, disent certaines personnes. Dans la fin des années 90, les années 2000, on disait « les Américains ne veulent pas avoir mal, vous avez mal au dos, voici des pilules », ce qu'on ne comprenait pas à ce moment-là aussi bien, c'est que ça crée une dépendance. C'est un peu comme l'héroïne. Donc, avec l'héroïne, avec ces médicaments antidouleurs, on a créé des milliers et des milliers, sinon quelques millions d'Américains dépendants. Aujourd'hui encore, ils sont dépendants. Il y a beaucoup de toxicomanes un peu partout aux États-Unis.
On reste aux États-Unis avec le reportage proposé par Radio France. Comment faire prendre conscience de leur citoyenneté française à de jeunes garçons de banlieue parisienne? Depuis plusieurs années, c'est le cheval de bataille des enseignants du lycée professionnel Théodore Monod de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. En 3 ans, ils ont fait découvrir à leurs élèves de la filière électricité Londres, Auschwitz, l'UNESCO, l'Élysée et donc Washington aux États-Unis. Solène Lehen a suivi cette classe où comment l'apprentissage de la citoyenneté, de leur citoyenneté française, passe par un voyage scolaire.
Genocide. Le voyage commence au mémorial de l'Holocauste de Washington, autour de Jacqueline Byrne, dont une partie de la famille a péri dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale. 13 lycéens de Noisy-le-Sec, en terminale bac pro électricité. Les casquettes sont rangées, chemises et cravates de rigueur.
Et vous voyez que quand ils arrivent, au bout de 3 jours de voyage, il y en a déjà qui sont morts. Et pour moi, ça me fait mal de voir ça, parce que je sais qu'il y avait ma grand-mère, qui avait 69 ans, qui était dans un de ces trains.
On voit ce qu'on n'a pas vu avant, la vérité, avec des preuves. Parce que maintenant, on est plutôt dans une réalité, il y a beaucoup de mensonges, propagande. Il vaut mieux avoir des preuves. Ouais, franchement, je me suis bien remis en question. Ça m'a fait réfléchir.
Ah oui, on a envie d'être acteur, on n'a pas envie que ça se reproduise. Je trouve que c'est bien ce que vous faites. Vous protégez l'histoire un peu.
Les rencontres sont riches, des survivants des camps, mais aussi de jeunes musulmans impliqués dans la mémoire du génocide des Juifs, un réfugié copte égyptien, une responsable du service d'immigration et un membre du Congrès dans son bureau du Capitole.
You're welcome here anytime.
J'ai fait une photo avec le sénateur. Une belle photo. Petit souvenir.
Thanks everyone.
Samia Issaba, leur professeur d'anglais, a organisé et trouvé les financements pour ce voyage.
C'est l'égalité des chances. J'ai vraiment envie qu'ils vivent des expériences comme n'importe quel lycéen qui a les moyens de partir en voyage scolaire pour que ses élèves s'ouvrent l'esprit, voient de nouveaux horizons et surtout découvrent le monde extérieur de leur quartier parce qu'au-delà de leur quartier, ils ne connaissent pas grand-chose.
China, Cuba, Mexico.
Changement de décor. Aliou, Kevin, Saad et leurs copains assistent à une cérémonie autour d'eux des jeunes gens de leur âge qui deviennent américains.
On a juré pareil que eux.
On a chanté l'hymne.
On a chanté l'hymne national. C'était intéressant.
Je crois qu'avoir la nationalité ici, c'est quelque chose d'important. Donc comme une dame tout à l'heure a fait un discours, certaines personnes ont pleuré.
Schneider, toi tu as assisté à une cérémonie de naturalisation en France il y a 4 mois et c'était la tienne.
Oui, c'était la mienne et ça s'est exactement passé comme aux États-Unis. C'est bien aussi d'être français. C'est un grand pays, la liberté.
Car tout ce que voient ces garçons fait écho chez eux, eux français mais nés pour la plupart de parents africains.
Moi mes élèves sont nés français. Ils n'ont pas eu à se battre pour obtenir leur nationalité. Ils ne mesurent pas l'importance d'être citoyen français et de la valeur de leur citoyenneté.
Ils sont vachement patriotes ici. Très surprenant, je m'attendais pas autant qu'ils aiment leur pays. On n'a pas ça en France.
Et c'est pour ça que l'école de la République doit vraiment faire un travail de fond pour des élèves comme ceux-là. Il y a tellement de menaces à l'extérieur de l'école. Ils prennent pour argent comptant tout ce qu'on leur raconte et tout ce qu'ils lisent sur Internet. Il faut les encadrer, il faut les éduquer, il faut les former pour leur transmettre les connaissances nécessaires pour qu'ils n'aillent pas vers le mauvais choix.
C'est grâce à ce genre d'expérience qu'on ne se laisse pas forcément engrainer par le djihad et tout ça. C'est faire la part des choses, on va dire, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal.
Et ça marche. C'est des élèves qui obtiennent leur diplôme à la fin de l'année, c'est des élèves qui sont transformés parce qu'ils ont les connaissances. Et ils ne se feront pas avoir.
Jérémy, au début du séjour, t'as dit « j'espère qu'on va gagner en maturité ».
Oui, et ben franchement, ouais. C'est vraiment impressionnant. Enfin, on se rend compte des choses. Si, en 3 jours, en fait, c'est possible.
17, 18, 19 ans, il n'était pourtant pas parti enthousiasmé par l'idée de visiter des musées.
Ça a tilté, en fait, dans ma tête. Comme dans les dessins animés, une ampoule. C'est mieux que je l'espérais.
Nous, au début, on voulait surtout voir des matchs de basket, des matchs de football américain. Mais bon, après, franchement, non, on n'a pas été déçus. Franchement, même on préfère ça. Un match de basket, on peut en voir en France, mais ça, ce qu'on fait, ça peut se faire qu'une fois dans une vie.
Ce reportage a été diffusé sur France Info en juin dernier. Solène Lehen, c'est vous qui avez accompagné ces jeunes. On peut vraiment dire que vous les avez vus se transformer sous vos yeux.
Oui, il y a une espèce de métamorphose. J'étais assez dubitative au début quand on m'a dit « tu vas voir, ils vont changer » et tout ça. Et effectivement, au tout début, on a un peu cette attitude de jeune de banlieue, le cliché, avec la casquette à l'envers, l'attitude nonchalante. Et puis au fil des jours, alors déjà, il y a une tenue réglementaire qu'imposent les professeurs, la cravate, la chemise, et puis on les voit bomber le torse, on les voit beaucoup écouter leurs interlocuteurs qui sont des gens importants et des gens qui les écoutent en retour. Et ces jeunes gens, eh bien, ils se métamorphosent tout à fait, et c'est ce qu'on entend à la fin du reportage. En l'espace de 3-4 jours, eh bien, ils ont grandi.
Retour en Europe avec le reportage de la RTBF. Les attentats de Bruxelles, les victimes un an après. Ils étaient à la station de métro Malbec ou à l'aéroport de Bruxelles National. Ce 22 mars 2016 devait être un jour comme les autres. Béatrice allait rejoindre ses parents aux États-Unis. Laurent se rendait à son travail. À 7h58, deux bombes explosent dans le hall de l'aéroport. 1h30 plus tard, c'est dans le métro qu'une explosion retentit. Le terrorisme vient de frapper Bruxelles, la capitale de l'Europe. Le bilan est lourd, 32 morts, plus de 350 blessés. Un an plus tard, Jean-Marc Viercet et Fabrice Gérard sont allés à la rencontre des victimes et de leurs proches. Ils ont aussi donné la parole à ceux qui sont intervenus sur place, qui ont pris le temps de se rappeler, d'évoquer ces souvenirs douloureux, de leur faire part aussi de leur volonté farouche de vivre.
Le 22 mars, j'allais au travail, comme n'importe quel matin. Il se trouve que le métro était complètement bondé. Et donc, je passe plusieurs portes parce qu'il n'y a pas moyen de rentrer, il y a trop de gens. Jusqu'à arriver dans la dernière porte du wagon maudit. Je pense qu'il y a des gens qui ont vu ce qu'il allait faire. J'ai entendu quelqu'un crier, on est attaqué. Et puis la bombe a explosé. Et là, ça devient très difficile de recoller le morceau dans sa tête.
Le 22, c'était juste le début de mes vacances de Pâques. Et j'allais rejoindre mes parents en Floride. Je pars de chez moi à 7h30. J'arrive à 8h moins le quart à l'aéroport. Je vais faire mon check-in. Et moi, en étant l'adolescente que je suis, j'étais sur mon téléphone avec mes écouteurs. Et puis, à un moment, j'ai la sensation de me faire éjecter complètement. Et puis, je me réveille dans l'aéroport et le premier truc que je vois, c'est mes jambes, complètement cassées.
Donc, le 22 mars, je suis arrivé quelques minutes avant 8 heures pour un vol à destination de New York. Je partais là pour des raisons professionnelles. Bon, je suis relativement habitué et donc j'ai regardé l'écran, j'ai vu qu'il y avait deux vols pour New York, la rangée 5 et la rangée 11, et pour moi c'était la rangée 11, donc elle était juste en face de moi. Je me suis dirigé là, dans la rangée 11, j'ai longé la file économique et je me suis mis au comptoir business, j'ai donné mon passeport à la dame, à la préposée pour le contrôle des entrées aux États-Unis. Elle m'a posé deux questions, mais bon, ça a explosé.
Le 22 mars, un jour ordinaire, où normalement je ne prends jamais de métro. Ça fait bien longtemps que j'avais plus pris le métro. Je dis au revoir à mon fils et à mon mari. Je vais me chercher des cookies et café en me disant voilà, je mangerai les cookies quand j'arriverai au salon. C'était vraiment une belle journée. La seule chose que je me souviens, c'est que j'avais vu des jeunes dames avec des jupes et je trouvais Je voyais que c'était, le beau temps arrivait, donc c'était assez agréable comme, comme début de journée.
Ce jour-là, nous sommes directement appelés pour incendie vers 8h, 8h15, 8h30. Et sur le chemin, on entend via les radios qu'il y a un problème sur Zaventem, qu'il y a des explosions. On est rentré immédiatement ici à Skarbek, donc à Paul Prien, la caserne. Et on a envoyé deux garçons directement à l'hôpital chercher des burn packs, des pansements et tout, des gants en caoutchouc et tout, pour ne pas contaminer les victimes quand on les toucherait. Et on avait juste où installer tout ce matériel, qu'on reçoit une annonce immédiate comme quoi ce serait des explosions suivies d'incendies et qu'on doit se diriger sur Malbec, donc sur le métro. Et là commence notre journée de cauchemar, quoi.
Il s'appelle Béatrice, Francis, Orphée, Cindy, Dominique, Laurent. Tous sont des victimes des attentats du 22 mars à Bruxelles. Nous sommes allés à leur rencontre un an plus tard, leur proposant d'ouvrir les portes de leur intimité. Avec nous, ils ont tenté de retisser le fil de cette matinée tragique. Ils nous ont confié leurs douleurs physiques, leurs séquelles psychologiques, leur colère parfois, et surtout, leur volonté farouche de vivre.
J'avais une personne à côté de moi, elle avait ses cheveux en feu. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi avec ma main droite de l'arrêter. Et puis je pense qu'elle a dû sentir que j'étais là parce qu'elle a levé la main. Et donc bah, on s'est tenu la main jusqu'à ce que quelqu'un arrive. Et puis quelqu'un est venu la chercher. Moi j'ai appris plus tard que quand il y a des événements comme le 22, il y a des choix à faire de qui peut vraiment être sauvé et qui ne peut pas. Et j'étais tellement touchée et brûlée qu'il m'avait mis dans la case « on peut rien faire ». Jusqu'au moment où j'ai commencé à entendre ce qui se passait autour de moi, j'ai pu bouger encore un peu plus, et je pense que j'ai dû crier pendant 5 minutes à peu près, jusqu'à ce que, enfin pour moi c'était 5 minutes, après je sais pas combien de temps c'était exactement, mais quelqu'un m'a trouvé, et puis les secouristes sont venus, et ils m'ont porté jusqu'à dehors, et à partir de là, je pense que mon subconscient a tout pris, parce que pour moi c'est bon, je suis sauvée. Et après c'était complètement blackout. Le premier truc que je me souviens, c'est de me réveiller dans l'hôpital 3 semaines après.
Je me retrouve dans le noir complet pratiquement, et j'ai la seule chose que j'ai en main, c'est mon téléphone, qui est d'ailleurs touché également, mais qui fonctionne. Et donc ma première réaction a été de téléphoner à ma compagne pour qu'on prévienne les enfants. Je lui ai dit, il y a eu un attentat, donc c'était immédiatement dans ma tête qu'il y avait un attentat à Bruxelles. Je suis blessé, le sang coule de ma tête, mais je ne sais pas ce que j'ai. Préviens les enfants, c'est tout ce que j'ai dit. Et donc je me retrouve dehors, allongé sur le trottoir. Dans un calme incroyable, je n'ai jamais entendu un silence pareil. Il n'y a rien qui bouge. On commence à évacuer quelques victimes. J'ai devant moi deux femmes dans un état très très triste. Ça m'émotionne toujours quand lorsque j'en parle. J'ai toujours les images de ces deux dames. Et pour moi, ce dont j'aspirais à ce moment-là, c'était que les secours arrivent, mais pas tellement pour moi. C'était pour ceux qui étaient devant moi et dont je voyais la vie partir, vraiment. Je voyais cette dame qui s'effondrait, dont la tête traînait par terre, elle était sur un trolley. Et là, ça m'a beaucoup pris. J'ai eu 2-3 visites, un pompier qui est passé, un militaire et un policier. Je lui ai dit à ce moment-là, allez voir autour de moi parce qu'il y a plus grave.
Il y a eu quelque chose d'horrible qui m'est arrivé, et de ça, j'ai eu quelque chose de génial. J'ai l'opportunité d'aller aux Paralympiques. Donc j'ai une opportunité que pas tout le monde a aussi facilement, alors que c'est venu de quelque chose d'horrible. Ça me donne envie d'y arriver.
Bien sûr, j'ai le séquel, je vis avec le séquel. Malheureusement, depuis lors, j'ai eu 9 opérations sous anesthésie générale, donc je suis quand même un peu faible, je dois digérer tout cela. L'autre mot, c'est que je relativise beaucoup de choses. Vous savez, tous les jours, en me levant, j'ai la chance d'être en vie par rapport à d'autres. Et ça, c'est un acquis énorme pour le psychologique. Je me réveille tous les jours en me disant « mais je suis là ».
Ce reportage a été diffusé dans l'émission transversale de la RTBF le 18 mars dernier, en version longue de 26 minutes, disponible sur franceinter.fr. Fabrice Gérard, c'est vous qui êtes allé à la rencontre de ces victimes. On imagine tout un travail pour simplement gagner leur confiance.
Oui, tout à fait. Effectivement, on a pris beaucoup de temps avec chacune des personnes victimes de ces attentats qui ont accepté de témoigner à notre micro. Et donc, on leur a proposé de mener en quelque sorte, pas les débats, mais de décider du cadre. On les a laissé choisir l'endroit dans lequel ils voulaient être interviewés. On a laissé émerger la parole et on n'a pas voulu être trop pressant avec eux. Et vous avez pu l'entendre, ce sont des témoignages où vraiment, ils ne se mettent aucune barrière, mais en même temps, on sent aussi qu'il y a beaucoup de pudeur de leur part par rapport aux événements dramatiques qu'ils ont vécu.
C'est au Congo-Brazzaville que nous emmène à présent le reportage de RFI. Le Pool, une crise humanitaire oubliée. Le Pool, c'est un département du sud du Congo-Brazzaville en proie à des violences depuis la réélection contestée du président Denis Sassou Nguesso en avril 2016. Des violences qui opposent, théoriquement, les forces de l'ordre congolaises aux partisans d'un ancien chef rebelle, Frédéric Binsamou, alias le pasteur Ntoumi, accusé d'avoir attaqué la capitale Brazzaville au lendemain de la présidentielle, accusé aussi de se livrer depuis à des actes de terrorisme. Problème, les affrontements ont déjà provoqué 100 000 déplacés, des pans entiers du département sont aujourd'hui interdits aux journalistes et aux humanitaires, et plusieurs organisations de défense des droits de l'homme accusent les autorités congolaises d'en profiter pour mener une répression à huis clos contre les populations de ce département réputé hostile au pouvoir en place. Florence Maurice a mené l'enquête pour RFI, réalisation Sandrine Straham.
À Brazzaville, la communication des autorités sur la crise du Pool se résume le plus souvent à cela.
Ils ont encore détruit, ils ont encore massacré, ils ont encore volé, ils ont encore pillé dans le département du Pool.
Une condamnation vibrante de la barbarie des hommes du pasteur Ntoumi et un hommage aux victimes militaires. Pas un mot, en revanche, pour les victimes civiles, pourtant en première ligne dans cette guerre qui ne dit pas son nom, prise en étau entre la violence des rebelles et celle des forces de sécurité.
Nous étions plus de centaines.
Étienne a échappé à un bombardement de l'armée. Il témoigne, anonyme, dans le secret d'une chambre close par peur des représailles.
Il y a des gens qui ont perdu des vues, il y a les gens qui ont perdu des 4 membres, les intestins dehors, les autres. Ils étaient morts sur place, calcinés en même temps, brûlés des corps jonchés. Donc, il y avait des militaires qui ont envahi la zone. On m'avait ligoté, on m'avait tapé, tout même là, le pied me fait mal. Ils tapaient, ils violaient, à l'œil nu comme ça là. Donc, vraiment, c'était choquant.
Au marché Total, le plus grand de Brazzaville, il y a longtemps que les bus ne font plus la navette entre la capitale et le Pool.
Il n'y a plus rien.
Il
n'y
a plus de bus qui viennent ?
Il n'y a plus de bus, rien. Les gens même ne sortent plus. On avait brûlé là-bas.
Depuis un an, les habitants de plusieurs districts du Pool subissent un véritable blocus. Et il n'est pas rare de voir arriver, un matin, épuisé, des femmes comme Chantal, 50 ans. Elle vient tout juste de fuir son village.
J'ai un câlin, maman. La maison a cassé le chemin. Pourquoi je ne pas là?
C'est infernal là-bas. Les militaires ont tout cassé. Ils ont brûlé nos maisons. On n'a rien à manger. Les gens ont les pieds enflés. C'est la pénurie. Le sel, par exemple. Les militaires nous vendent la cuillère de sel à 1000 francs, alors que ça coûte 25 francs normalement. Pour aller chercher à manger, il faut s'échapper et se cacher dans la forêt. Les militaires nous pourchassent partout. On risque notre vie en allant chercher de quoi nous nourrir. Il faut tout faire en catimini. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour subir ça?
Je rentre plus. Je vais rester ici.
L'atmosphère dans ces villages du Poule semble oppressante. Étienne, lui aussi, s'est échappé d'une petite localité aux mains des militaires. Derrière lui, il a laissé sa mère, sa sœur et ses neveux.
Là-bas, l'armée refuse à la population de sortir, comme dans un enclos. Donc, on pouvait même pas aller à 3 km de la gare. Donc, il n'y avait plus rien à manger. Même là, c'est avant-hier que j'ai appris qu'il y a encore eu un décès là. Ils sont morts dans la maison. Nous, on ne comprend pas pourquoi on nous garde. C'est devenu comme une punition. Parce qu'ils sont là pour la sécurité, d'après ce qu'ils nous disent.
Faute d'accès, on ignore combien de civils vivent encore reclus dans ces zones isolées. En avril dernier, une trentaine de personnes malnutries ont été discrètement exfiltrées par les autorités. Le député du Poule, Gebris Parfait-Kolela, leur a rendu visite.
C'est dommage que les caméras ne sont pas passées pour filmer ces gens-là avec des cheveux roux, des ventres ballonnés. C'est grave. Dans le Poule, pour y accéder, il faut les laisser passer. C'est comme si on était dans la bande de Gaza. C'est ça ce qui se passe. Donc, moi, je ne pense pas que la traque de 4 individus puisse amener à ce que tout un département ou 6-7 districts puissent être mis en difficulté.
Que se passe-t-il exactement dans ces localités? Pourquoi la traque du Pasteur Ntomi provoque-t-elle autant de déplacés et autant de violence? Les récits des populations jettent en tout cas le trouble sur la version avancée par les autorités. Arsène a fui les militaires qui brûlaient son village et aujourd'hui encore il se demande pourquoi.
Tout ce que nous savons officiellement, ils sont à la recherche des ninjas.
Oui.
C'est tout ce que nous dit. Malheureusement pour nous, les ninjas ne sont pas avec nous dans le village. Hein? Bon, mais eux, ils font des sévices sur nous qui sommes au village. Donc, au lieu de les pourchasser dans les forêts, s'ils ont vraiment des renseignements, mais ils s'en prennent seulement à la population.
L'ONG catholique Caritas réclame un couloir humanitaire d'urgence et tente de briser l'omerta qui règne sur ce conflit en venant en aide aux populations déplacées. Mais la plupart d'entre elles survivent dans l'indifférence générale. En un an, l'Outété, à quelques kilomètres du Poule, a accueilli 2000 déplacés, mais ils sont comme invisibles. Les autorités locales ont refusé qu'ils soient regroupés sur un site trop voyant. Instruction a été donnée aux chefs de quartier de les placer dans des familles d'accueil, souvent démunies, elles aussi. Augustine est veuve, malade. Depuis 9 mois, elle héberge 17 personnes sans la moindre assistance.
Oui, je suis abandonnée de moi-même. Avec mes sinistrés, je suis abandonnée. Personne ne me rend visite. Donc c'est grave. Personne ne dit que oh, même quelque chose à manger, même quelque chose à couvrir, même quelque chose, façon matelas pour faire dormir. Même la natte, rien. C'est moi-même. Mais j'ai besoin de l'aide.
De l'autre côté de la ruelle, deux vieux wagons silos rouillés, abandonnés depuis 20 ans, depuis la dernière guerre. Et devant la maison, une assiette avec l'unique denrée du jour, un petit morceau de manioc déjà bien entamé.
Regarde, le bout de manioc, on partage sur mon petit. Venez ici, venez voir ici.
Cette jeune fille veut nous montrer ses moustiquaires troués. Elle a fui, dit-elle, les pillages de l'armée.
Ils ont brûlé les habits, oui. Ils ont cassé les maisons, donc il n'y a plus de maisons là-bas. Les maisons, on a levé des tôles, on a cassé des maisons, donc là-bas, il n'y a plus de maisons. Ni l'élevage, il n'y a plus. On a tout pillé.
Il y avait des ninjas dans votre village?
Non, c'est moins des militaires. C'est des militaires qui ont créé tout cela.
Même Caritas a bien du mal à trouver de l'argent pour venir en aide à ces populations, victimes d'une crise dont pas grand monde ne parle et qui reste minimisée par les autorités. Javel Kimbassa, coordonnateur de l'ONG dans ce département.
Je suis révolté contre cette situation qui se répète, des populations abandonnées à elles-mêmes. Il y a des gens qui meurent en silence, il y a des femmes qui sont obligées de se prostituer. S'il n'y a pas une prise de conscience, une mobilisation nationale, internationale, s'il n'y a pas des ONG qui s'engagent pour venir en aide à ces populations, il y a énormément de risques.
C'est difficile d'alerter les gens sur ce qui se passe ici?
Difficile, oui. Parce que ça dérange certains, ceux qui n'ont pas envie de savoir qu'il y a des situations comme ça, des gens qui sont en détresse, ça dérange. Je ne voulais pas les nommer, mais nous, notre combat, c'est de faire connaître ce drame qui se vit ici.
Les enfants ne sont pas épargnés par la crise. Sous une tente, depuis le mois de février, l'UNICEF accueille quelques heures par jour de jeunes enfants traumatisés. Ursula Nsona est animatrice sur le site.
C'est surtout effacer les images là, qu'ils ont vécues là-bas dans le Poule. Là, par exemple, j'encadre les enfants de 5 ans.
Quand je leur demande de dessiner, tu vois, il y a des enfants qui sont en train de dessiner les hélicoptères, il y a des enfants qui dessinent les armes des militaires. Bon, tu vois, ce sont des enfants traumatisés et nous essayons d'effacer ce traumatisme-là.
S'il y a un certain flou sur la nature et les enjeux de cette guerre qui se déroule à quelques kilomètres dans le Poul, les témoignages des enfants ne laissent aucun doute sur l'ampleur des violences qui se poursuivent par endroits à huis clos. Jusqu'à présent, toutes les demandes d'enquête indépendante sur les violations des droits de l'homme dans le Poul sont restées lettres mortes.
Ce reportage a été diffusé sur RFI en mai dernier. Un travail d'enquête, en fait, Florence Maurice, sans doute bien compliqué par la volonté gouvernementale de cacher cette crise.
Paradoxalement, ce qui se passe dans le Poul se sait, y compris à Brazzaville. Il suffit d'aller au marché pour entendre toute cette souffrance de ce département qui est aux portes de Brazzaville. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une énorme chape de plomb, que c'est une crise taboue, parce qu'elle a beaucoup de dimensions politiques, militaires, et humanitaire, et que donc les gens qui vivent au Congo-Brazzaville ne peuvent pas en parler parce qu'ils ont peur.
Et est-ce que les choses ont changé depuis le tournage de l'année dernière, en fait ?
Alors, ce qui a changé, c'est que le gouvernement a reconnu l'ampleur de la crise, notamment le nombre de déplacés. Au moment où je suis partie, on parlait de 20 000 déplacés. À l'époque, c'était déjà probablement 80 000. Aujourd'hui, on reconnaît qu'il y en a au moins 135 000. C'est un tiers de la population du département. Et donc, ça a permis de drainer un minimum d'aide humanitaire. Pas énormément. Il y a beaucoup de crises dans le monde et c'est terrible, mais il y a une concurrence pour venir en aide aux populations qui en ont besoin. Et évidemment, Brazzaville, puisque personne ne parlait de cette crise, il n'y avait pas de fonds à louer pour ces populations, qui en plus étaient un peu cachées par les autorités pour que cette crise ne soit pas visible. Donc ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, le Congo-Brazzaville ne peut plus dire qu'il n'y a pas une crise humanitaire majeure.
Et mademoiselle, pourquoi tu réponds pas ? Le reportage de la radio-télévision suisse aborde un problème universel et très actuel. Le harcèlement de rue. Il a longtemps été sous-estimé, notamment en Suisse. Or, selon une étude menée à Lausanne, 72% des jeunes femmes âgées entre 16 et 25 ans disent avoir été harcelées dans la rue. Un conseiller national, parlementaire, a d'ailleurs demandé que le gouvernement fédéral évalue l'ampleur du phénomène, voire renforce les dispositions pénales en la matière. Francesca Argirofo et Yves Zano ont recueilli le témoignage d'un certain nombre de jeunes femmes qui leur ont parlé de leur expérience du harcèlement de rue. Ils ont surtout donné la parole à trois jeunes hommes, des Lausannois de 17 à 22 ans, qui racontent leur façon d'aborder les filles dans la rue, les termes qu'ils utilisent, mais aussi leur perception personnelle de leur propre attitude. Respectueux à l'égard des femmes, leurs certitudes sont ébranlées. La seule association de lutte contre le harcèlement de rue en Suisse a encore bien du travail. Sa présidente évoque des pistes pour éradiquer cette maladie.
Il n'y a pas besoin de mettre un short pour avoir des commentaires dans la rue.
Quel genre de commentaires ?
Bah alors c'est des sifflements, des petits bruits d'appel de chiens.
Des fois on te regarde de haut en bas et après il y a un petit regard malsain et... ou des choses un peu comme ça. Mais les regards parfois sont plus insultants que les mots.
Ça vous arrive combien de fois par jour ?
En été ou en hiver ?
Bah, à chaque fois qu'on va d'un point A à un point B. Pratiquement à chaque fois, ouais.
Ça arrive par exemple qu'ils t'appellent, tu réponds pas, tu regardes tout droit, mais après ils t'insultent parce que tu ne réponds pas, enfin ce genre de choses.
Quand ils insultent, c'est quel genre d'insultes ?
Oh ouais, sale pute, connasse.
Direct.
Il y a souvent, de toute façon, t'es moche.
Tu te retournes pas, donc de toute façon, t'es moche.
Voilà, mais moi j'ai toujours un peu la pression, je me dis, il va me suivre ou bien je sais pas.
Mais dès qu'il y a un garçon, ça se passe pas.
Est-ce que vous vous sentez coupable de dire je porte un short court ou un débardeur ?
Non. Les garçons l'été mettent aussi des shorts, ils mettent aussi des Marcel moulants. Alors pourquoi de nous mettre un short et de mettre des habits qui couvrent pas beaucoup, ça serait provoquant.
Mais honnêtement, c'est quel genre de mecs qui font ça ?
Ça peut être un papa, ça peut être des jeunes de 15 ans en groupe, ça peut être un type de 30 ans, c'est tout quoi. L'été dernier, on était justement au premier jour de short, on allait au bord du Rhône. Je me suis fait toucher les fesses par un papa de 50 ans. Après, j'ai traité de connard et puis il a commencé à m'insulter de sale pute et de machin. Mais il était avec son fils de 4 ans quoi.
Les gens, ils se rendent pas compte. Enfin, je parlais l'autre jour de ça avec mon père.
Puis je lui ai raconté que oui, en tout cas une fois par jour, je me faisais siffler, ou etc. Et lui, il était choqué. Sérieusement ? Non, j'étais à mes papas, genre, tu te rends pas compte à quel point c'est devenu standard, au point où on se bat pas assez pour ça, parce qu'on le vit tous les jours, en fait.
Hey, mademoiselle, t'es bien mignonne. Je dirais même plus, elle est trop bonne.
Mais qu'est-ce que ces hommes ont en tête lorsqu'ils sifflent les femmes ? Fait rare, nous avons pu rencontrer quelques hommes qui ont accepté de se livrer à notre collègue Yves Zano. Rendez-vous d'abord avec Ali, 17 ans, un jeune apprenti timide. Il passe son temps avec sa bande de copains à aborder les filles dans son quartier lausannois. Voilà son entrée en matière.
Je me présente, je leur demande qu'ils lâchent 16 ans, je leur dis qu'elles sont jolies et tout. Mais après, si elles me disent « ouais, mais non ». Ça m'intéresse pas. Je fais, tant pis, dommage. Une prochaine fois, si tu veux.
Les autres copains qui sont avec vous pour draguer les filles, ils ont la même retenue que vous ou ils vont plus loin, eux ?
Ça dépend qui. Ça arrivait qu'il y en a un, il a vu une fille, elle était habillée, une jupe, avec un truc où on voyait la moitié de ses seins, quoi. Il va dire, ouais, toi, t'es bonne, j'ai envie de te faire ça, j'ai envie de te faire ci. Mais après, dans mon groupe, à moi, on est mature un peu. On pense pas qu'à ça. Si on va parler à une fille, on va lui parler gentiment. Je dis, t'es jolie, t'as des belles formes. Après, il faut pas manquer de respect à une personne qu'on connaît pas. Surtout à une fille qui est jolie, quoi.
Il y a des amis à vous qui ont touché des filles, qui ont été vraiment très violentes dès le départ, ou qui le sont tout le temps, comme ça.
Il y en a des, ouais, qui sifflent, mais après, c'est plus qu'on est en groupe. Il y a des gars, ils veulent faire se la raconter, quoi. Et puis même, ils les insultent pour aucune raison. Parce qu'ils répondent pas. Mais voilà.
Ça vous est arrivé de faire ça ?
C'est il y a longtemps, quoi. Quand j'étais plus petit, pour faire le gars, dire ouais, moi je suis un homme, je vais aller parler à une fille. Et elle m'a pas répondu. Après, je me suis énervé.
Vous avez regretté ça ?
Ouais, franchement, ouais. C'est pas un truc qui se fait. Moi, j'aimerais pas qu'on fasse ça à ma mère ou une fille de ma famille, quoi. Si j'aurais des enfants et que j'ai une fille, j'aimerais pas que des garçons fassent ça.
Vous avez dit respect, c'est un mot en tout cas que n'hésitent pas à utiliser ces deux jeunes de 21 et 22 ans.
Bonjour, je viens de Lausanne, j'ai grandi à Lausanne et je suis la plupart du temps, le week-end, souvent en ville, dehors. Donc un petit peu au cœur du problème, on va dire.
À côté de vous, un ami ?
Bonjour, pareil, je viens de Lausanne, j'ai grandi à la Blecherette, tout le temps dehors, voilà.
Yves Zano leur a demandé leur phrase d'accroche préférée.
C'est rien de méchant et...
La dernière fois, une fille, elle est passée, je lui ai dit cheveux de miel, elle a éclaté de rire, elle a continué sa route. Et moi, je sais pas, juste le fait qu'elle ait éclaté de rire, ça refait ma soirée, j'étais content, j'ai pas cherché plus loin.
Et vous ?
Souris, t'es belle, des choses comme ça, dans la rue, quand on voit une fille qui passe, qui fait un peu la tête.
Tire la tranche, je lui dis, tire pas la tête.
Ah ouais, t'es belle, souris à la vie.
C'est même plus ça que des sifflements.
Ouais,
des...
Clairement.
Parce que les sifflements, c'est rare encore. Ouais, à partir du moment où il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de.
Le truc, c'est vraiment, quand c'est avant cette limite, on n'a pas l'impression que c'est un manque de respect pour nous.
C'est jamais méchant, on va pas au-delà de...
Elle, ça peut les gêner, mais...
Non, mais on n'est pas à courir derrière non plus, comme la plupart, tu vois.
Jamais agressif, jamais... Toujours sur le temps de la rigolade.
Ouais, toujours sur le temps de la rigolade, ça, c'est, je pense que c'est normal, ça.
Et les filles, vous pensez qu'elles apprécient ?
Il n'y a jamais une fille qui s'est retournée et qui m'a dit « espèce de connard » ou un truc comme ça, tu vois.
Je pense pas que ça leur plaît forcément. Je pense qu'il y a des filles qui comprennent plus que on fait ça pour la rigolade. Après, je comprends aussi qu'il y en a que ça doit gêner et qu'elles doivent se sentir
un peu... Non, moi je pense qu'il y en a des, ça leur plaît. Un peu quand même. Elles se sentent bien, tu sais, elles se sentent comment dire ? Vous voyez les filles, comment elles s'habillent ?
Elles aiment bien plaire.
Elles aiment bien plaire, on est d'accord. Quand vous leur montrez que elles plaisent, enfin qu'elles ont atteint leur but, on va dire, je pense que... Il y a une satisfaction quelque part, à mon avis.
Je sais pas. Celles avec qui on en a parlé, en tout cas, elles avaient pas l'air de forcément apprécier ça. Ça lui plaisait pas du tout, malgré que c'est quelqu'un...
Elle a pas dit ça. Elle a dit que ça lui gênait quand il y avait des gens qui forçaient ou qui lui demandaient une cigarette et que... Ouais. Elle répondait non, elle se faisait insulter à cause d'une cigarette ou des trucs comme ça.
Mais les sifflements, tout ça, elle a clairement dit qu'elle trouvait ça relou et...
Ouais, c'était pas un morceau de viande, quoi.
Ouais, voilà. Ouais. Elle voulait pas se sentir comme un steak.
Ouais, voilà. Moi, j'ai vu récemment une vidéo sur le net d'une femme sur trois qui se fait quand même... C'est beaucoup, quand même.
Il y a ce côté où, les plus jeunes que nous, ils peuvent nous voir faire ça et se dire, ouais, c'est marrant et peut-être qu'ils déraperont plus tard. C'est vrai qu'on peut entraîner ça sans s'en rendre compte. Après, c'est jamais le but recherché, mais c'est vrai que maintenant que vous le dites, je vois l'influence que ça peut avoir. Après, comme on a dit, c'est de la rigolade pour nous, c'est rien de sérieux.
Peu de femmes pourtant prennent ça pour de la rigolade. Et encore moins Natacha Stegman, présidente à Fribourg de la seule association de Suisse dédiée à la prévention du harcèlement de rue. 1700. 1700, le code postal de Fribourg est...
SANS, parce que justement, on en a marre du harcèlement de rue. Donc sans harcèlement, sans gros PD, sans sale pute, sans gros cul, sans grosse moche, voilà, etc. J'en passe. Je réponds toujours. Ça peut prendre plusieurs formes. Ma forme préférée, c'est vraiment de faire soit un scandale ou soit faire preuve de vraiment beaucoup de créativité. Par exemple, si on me dit « t'as un gros cul », ben je dis « t'as pas vu mes seins ». Donc je dis « il faut toujours répondre, toujours ».
Est-ce qu'il faut faire plus de répression, plus de sensibilisation ?
En fait, la clé, ce serait vraiment de pouvoir faire de la sensibilisation auprès des préadolescents de 12-13 ans, obligatoire dans les écoles. Comme ça, on tuerait un peu dans l'œuf le harcèlement de rue, comme on ne sait plus trop ce que c'est la variole. Donc, on tuerait aussi le harcèlement de rue comme la variole.
Reportage diffusé le 24 juin dans le 12-30 de RTS, la première. Francesca Argirofo est avec nous. Ce qui frappe Francesca, c'est la liberté de ton des harceleurs, mais aussi celle de leurs victimes, des jeunes femmes agressées au quotidien.
Finalement, ce harcèlement, ça les met dans un état d'insécurité absolument incroyable. Et c'est ça qui était intéressant. C'était en fait la confrontation de ces deux discours. D'un côté, ces filles qui se sentent complètement insécurisées par l'attitude des garçons. Et de l'autre, ces garçons qui sont souvent en bande, qui considèrent ça presque comme un jeu. Ils ne réalisent pas que le sentiment de vulnérabilité que leur attitude provoque chez les filles.
Vous venez donc d'entendre les 5 reportages en lice pour ce grand prix du reportage des médias francophones publics. Vous pouvez les réécouter sur le site de France Inter, franceinter.fr. Le nom du lauréat sera révélé ce soir dans le journal de 19h. Dimanche prochain, retour d'Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter. À la semaine prochaine.